Bonjour Céline Bessière, moi je m'appelle Gaëlle et nous sommes très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui. Donc vous avez étudié à l'École normale supérieure à Paris, n'est-ce pas? Et vous êtes aujourd'hui chercheuse et professeure à l'Université Paris-Dauphine. Vous avez donc fait un long parcours et quels en sont les points forts selon vous?
Moi j'avais fait un bac scientifique et à l'époque on ne pouvait pas faire beaucoup de maths au lycée et faire des sciences sociales. Et ensuite j'avais fait une CAGNE BL, c'est une classe prépa dans lequel, qui est pluridisciplinaire, dans laquelle il y a donc des maths, mais aussi des sciences économiques et sociales, de l'histoire, de la philo, de l'anglais. Et à l'issue de cette CAGNE BL, j'ai intégré l'École normale supérieure. Où là, je me suis inscrite au département de sciences sociales et où j'ai demandé à pouvoir faire et de la sociologie et de l'économie. D'ailleurs, pour moi, à l'époque, ce n'était pas très clair la différence entre la sociologie et l'économie parce que j'avais été formée aux sciences économiques et sociales. Bon, pour moi, c'était un ensemble. Je me suis rendu compte en arrivant à l'École normale supérieure qu'en fait, c'était deux disciplines bien distinctes avec des manières de travailler assez différentes. Néanmoins, j'ai fait une double licence, donc une licence en sociologie et en économie. Et puis, je suis allée comme ça jusqu'au, ça s'appelait maîtrise à l'époque, donc qui correspond au M1 aujourd'hui, et en sociologie et en économie. Et j'ai passé le concours de l'agrégation de sciences économiques et sociales. Et après cette agrégation, je suis partie aux États-Unis. Pour une année, donc c'était un échange que permettait l'École normale supérieure. Et pour moi, ça a été un moment très important dans mon parcours, que je n'ai pas très bien compris d'ailleurs sur le moment, parce que sur le moment, tout était un peu... Bon, déjà, j'ai appris l'anglais, je parlais très mal anglais avant ça. Et puis, ça a été très important parce que j'ai découvert les gender studies. Et en 2000, en fait, les études de genre en France n'étaient pas du tout développées, très peu enseignées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des chercheuses qui travaillaient sur les questions de genre, mais c'était très peu enseigné à l'université. Et du coup, j'étais à Duke University et il y avait un département Women Studies. Et c'est là que j'ai lu, très bizarrement, Simone de Beauvoir, par exemple, et d'autres, les classiques des études de genre. Et puis après, je suis revenue en France, j'ai fait ce qui s'appelait à l'époque un DEA, qui correspond aujourd'hui à un Master 2 de recherche. Et puis, j'ai fait une thèse. Sur les transmissions d'entreprises familiales viticoles dans la région de Cognac. Après cette thèse, j'ai été recrutée à l'université, donc à l'université Paris-Dauphine, comme maîtresse de conférence. Et puis, plus récemment, j'ai fait ce qui s'appelle une habilitation à diriger des recherches, dont l'intitulé c'était « La richesse des familles ». Qui est un peu une sorte de matrice de ce que vous avez lu dans le livre « Le genre du capital », qui m'a permis de devenir professeure d'université.
Merci. Donc, c'est un très long parcours, mais est-ce que vous avez planifié ce parcours ou est-ce que vous pensiez faire complètement autre chose quand vous étiez adolescent?
Non, quand j'étais au lycée, je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. Ça, c'est sûr. J'avais aucune idée à l'avance, bien sûr, de ce que j'allais faire. Il me semble que les choix d'orientation, en fait, ils se font un peu les uns derrière les autres à partir de... Moi, je savais même pas que ça existait, l'École normale supérieure, quand j'étais au lycée. J'étais vraiment très loin, même d'un point de vue social, en fait. Donc, j'étais à Chartres. Il y avait très peu de gens qui allaient... La prépa BL, c'est presque un hasard que j'en ai eu même l'information. Donc non, c'était pas du tout... rien de tout ça n'était planifié à l'avance. Mais par contre, quand on revient rétrospectivement, c'est vrai que tous ces ingrédients, ils ont une importance sur le livre que j'ai écrit. Par exemple, je pense que ça serait pas possible. J'aurais pas pu écrire ce livre si j'avais pas été formée aux études de genre, notamment aux États-Unis. Mais j'aurais pas pu écrire ce livre non plus si j'avais pas fait de l'économie très très longtemps dans mon parcours universitaire, parce que c'est très important en fait, même si aujourd'hui je suis sociologue, je peux parler avec les économistes, je peux discuter les travaux des économistes, je peux parler le même langage qu'eux, je comprends leurs concepts, et c'était nécessaire pour s'intéresser aux inégalités de patrimoine.
Nous vous proposons maintenant, pour vous connaître un peu mieux, un questionnaire de Proust. Donc, on peut commencer avec une première question. Quel est votre mot préféré?
Ouh là là, j'ai pas préparé, je sais pas. C'est difficile. Plaisir.
Et votre mot que vous détestez le plus?
Le mot que je déteste le plus. Ennui.
Votre drogue ou addiction préférée?
Le rhum.
Ok. ce qui vous inspire créativement, spirituellement ou émotionnellement?
Mes proches, mes amis.
Votre gros mot ou blasphème favori?
Puta madre.
Homme ou femme,
d'un point de vue des études de genre, c'est vraiment pas terrible quand même. Hein.
Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque?
Alors, ça serait une femme, certainement. Simone de Beauvoir?
Le métier que vous n'aimeriez pas faire?
Employé de banque.
La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné?
Un baobab?
Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire?
Vous me posez des questions que je ne me suis jamais posées là, donc j'ai envie de vous répondre que une non-réponse. Vous savez qu'il y a des textes très importants en sociologie qui ont été écrits là-dessus. Donc je refuse de répondre, je ne sais pas, ça n'a aucun sens pour moi.
Merci. Ok, merci beaucoup. Maintenant, ma camarade Clara va vous demander quelques questions sur les méthodes pour écrire votre livre. Merci beaucoup.
Bonjour.
Bonjour.
Comment trouve-t-on les enquêtés?
C'était une bonne question, parce qu'en fait, on trouve les enquêtés, mais les enquêtés nous trouvent aussi. C'est une relation que dans les deux sens. Dans le livre, il ne vous aura pas échappé que c'est vraiment beaucoup d'enquêtes et une très longue durée d'enquête qu'on a mis dans ce livre. Il y a plus de 15 ans d'enquête dans ce travail. Et notamment la partie sur l'enquête auprès des familles. C'est vrai que c'est délicat en fait de trouver des personnes, des hommes et des femmes qui veulent bien vous parler de leur relation familiale et aussi dans ces aspects économiques de leurs histoires d'héritage ou de leurs histoires de divorce. Et c'est vrai que ça se fait vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire que souvent, ce qui s'est passé, donc on a fait ce qu'on appelle des monographies de famille, et ça, avec Sybille, ça nous distingue de pas mal de travaux de sociologie de la famille. C'est-à-dire que, en fait, pour nous, c'était très important de pas aller voir une seule personne et de lui demander de nous parler de sa famille, mais de prendre une personne dans une famille et ensuite d'enquêter autour, c'est-à-dire sur son conjoint ou sa conjointe, ses parents, ses frères et sœurs, ses enfants, et de pour avoir plusieurs points de vue sur une même histoire familiale. Donc c'est vrai qu'au départ, ça suppose d'avoir ce qu'on appelle dans notre jargon une bonne entrée sur le terrain, c'est-à-dire d'avoir déjà une première personne qui accepte de vous parler, et puis ensuite qui accepte de vous recommander auprès des autres membres de sa famille. Mais pour nous, c'était très très riche de faire ça, parce qu'avoir plusieurs points de vue sur une histoire de succession, on va se rendre compte que, par exemple, les frères et les sœurs ne vont pas raconter la succession de la même façon. Et on va se rendre compte que certains ont trouvé des choses justes, d'autres injustes. Et de confronter les points de vue, c'est ça qui nous intéresse. Et donc, en général, ce qui se passait, c'est qu'on avait... ce qui est pas mal en sciences sociales, c'est de ne pas travailler sur ses proches, sur ses trop proches, sur ses amis... parce que c'est compliqué en fait, ça engage une relation en plus sur le long terme. Donc ce qui est pas mal, c'est d'avoir une relation un tout petit peu plus loin. Par exemple, un ami d'ami qu'on ne connaît pas, mais qui accepte parce qu'il veut faire plaisir à son ami. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de recommandation. Et puis, une fois qu'on a cette bonne entrée, cette personne qui accepte de vous parler de sa famille, ben, on essaye de lui demander de nous donner les contacts des autres membres de sa famille et surtout de nous recommander auprès des autres membres de sa famille. Mais c'est vrai que des fois, ça marche et puis des fois, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'on choisit ces enquêtés, mais les enquêtés nous choisissent aussi. Après, quand on commence à être un peu plus avancé, on a quasiment des enquêtés qui se proposent à nous. Dans le livre, c'est le cas d'une des familles. Sybille avait fait paraître un article dans une revue d'anthropologie et il y a quelqu'un qui l'a contacté en lui disant « Mais j'aimerais bien que vous me parliez de la succession dans ma famille. » Et là, avec le livre « Le genre du capital », on a très souvent des lecteurs et surtout des lectrices qui nous écrivent et qui aimeraient bien qu'on travaille sur leur famille. Voilà, donc ça peut se faire dans les deux sens.
Merci. Voici Allegra qui a quelques autres questions.
Oui, bonjour. J'aimerais bien savoir comment fait-on pour construire des bons entretiens et est-il difficile de faire que les gens s'ouvrent à vous?
Oui, alors souvent on a ce qu'on appelle un guide d'entretien. Alors un guide d'entretien, moi j'aime bien vraiment les distinguer d'un questionnaire. Un questionnaire, c'est quand on fait une enquête statistique, on pose des questions, toujours dans le même ordre, toujours avec les mêmes mots, à un grand, grand nombre d'individus. Et ensuite, on peut faire des statistiques à partir de là. Quand on fait un entretien, le but du jeu d'un entretien et ce qui fait qu'un entretien est réussi, c'est pour moi un des bons critères, c'est quand l'enquêteur, l'enquêtrice parle très peu et la personne interviewée parle beaucoup. Parce que ce qu'on veut, en fait, c'est capter le point de vue singulier de la personne enquêtée. Et donc, du coup, moi, je ne pars pas avec des guides d'entretien, avec des questions très précises déjà écrites à l'avance. En général, je pars avec une première question pour présenter l'enquête, pour pas être prise au dépourvu au début. Et puis, j'ai des thèmes que je veux absolument aborder au cours de l'entretien. Et j'essaye de faire en sorte que la personne parle le plus possible et de rebondir sur ce qu'elle me raconte. De la laisser parler, ça veut dire parfois qu'elle va raconter une histoire et puis moi, je vais la ramener en arrière au bout d'un moment pour lui dire « Oui, mais là, vous m'avez dit ça, j'aimerais bien que vous précisiez. » Un bon entretien aussi, c'est un entretien où on ne laisse pas la personne raconter trop des généralités, mais où on s'attache à ce que la personne raconte vraiment, des pratiques, des anecdotes, des choses précises. Ça peut être utile d'ailleurs parfois de faire un entretien avec un document qui un peu support. Par exemple, dans nos histoires du genre du capital, on peut faire un entretien avec un acte notarié, par exemple, qui organise une succession, et puis de faire parler la personne à partir de ce document pour qu'elle vous parle de choses vraiment très concrètes et non pas qu'elle vous donne un point de vue un peu général qu'elle donnerait à n'importe qui d'autre. Et ça, typiquement, on fait ça, on fait des cours, en fait, aux étudiants, là-dessus, sur les méthodes d'enquête et comment est-ce qu'on fait un bon entretien. Et ça s'apprend, en fait.
D'accord, merci.
Moi, j'ai une autre question. Qu'est-ce qu'on observe quand on fait une observation?
Oui, je ris parce que, en fait, là aussi, c'est une très bonne question. C'est, en effet... ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, il faut remarquer les choses. Il faut s'étonner quand on est sociologue. Et on pourrait, par exemple, là, vous voyez, je vois votre écran. Si je devais observer cette situation, je pourrais raconter des trucs complètement absurdes. Par exemple, le nombre de pierres qu'il y a sur le mur derrière vous, là, que je vois, moi, sur mon écran. Vous voyez que ça n'aurait pas grand intérêt d'un point de vue sociologique. Donc, en fait, voilà, il faut... Pour faire une observation qui a du sens, on ne part pas de rien. On ne pourra jamais tout décrire. Et souvent, il faut un petit peu s'étonner des choses. Et là aussi, ça s'apprend. C'est pas très facile, mais ça s'apprend à observer et à être un bon ethnographe, c'est quelqu'un qui va être au bon endroit, au bon moment, qui va observer des choses intéressantes, qui peuvent dire plus que ce que la situation qu'il ou elle est en train d'observer. Voilà, mais là, en parler comme ça, un peu dans le vide, c'est pas très bien. Il faudrait que je vous trouve un exemple, justement. Je sais pas, voilà, je vais vous donner un exemple. Ça n'a rien à voir avec le genre du capital, mais peut-être quand vous voyagez, en fait, vous êtes dans une bonne situation d'observation. D'ailleurs, les anthropologues, enfin, la technique de l'observation, c'est une technique qui vient de l'anthropologie, et les anthropologues, c'était des personnes qui observaient d'autres sociétés que la leur, parce qu'on est un bien meilleur observateur, observatrice, quand on observe autre chose que sa propre société. Voilà, je vais vous donner un tout petit détail parce que c'est simple. Donc, la première fois que je suis allée aux États-Unis, donc il y a 20 ans, je vais faire mes courses au supermarché et je note qu'il y a un gobelet pour poser son espèce de seau de coca là sur le caddie du supermarché. Bon, ben ça, par exemple, c'est quelque chose en France où les caddies sont déjà trois fois plus petits, mais c'est quelque chose qu'en France, on voit pas, un porte-soda. Voilà, bon, bah ça dit quelque chose du rapport à l'alimentation des Américains et du rapport à l'alimentation des Français. Voilà, donc ça, bon, c'est un tout petit exemple qui n'a rien à voir avec mes recherches ni aucune recherche, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, pour bien observer, il faut être dans une situation où on est surpris, où on s'étonne, qui ressemble un petit peu du coup à une situation de voyageur ou voyageuse.
Alors, comment préserver une rigueur scientifique sans se borner à une démarche positiviste et ou quantitative où on s'enferme dans le traitement statistique de données chiffrées?
Dans le livre, on mobilise plusieurs types de matériaux. Donc, il y a les enquêtes par entretien ethnographique de longue durée auprès des familles. Et puis, on travaille sur l'enquête patrimoine de l'INSEE. Et en fait, c'est amusant parce que dans votre question, il y a une espèce d'implicite qui serait que les chiffres ou les statistiques, ça serait plus positiviste ou plus rigoureux ou plus objectif que les données tirées des enquêtes de terrain. Et en fait, nous, on applique exactement le même regard critique et réflexif sur les données statistiques que les données tirées des enquêtes par questionnaire sur lesquelles on peut faire des statistiques que des données de l'enquête de terrain. Je vous donne un exemple très précis du livre. Les enquêtes déclaratives sur le patrimoine des ménages, qui sont les seules enquêtes qu'on a pour décrire les inégalités patrimoniales entre les riches et les pauvres, entre les ménages riches et les ménages pauvres, mais aussi entre les hommes et les femmes, ce sont des enquêtes déclaratives réalisées à l'échelle du ménage. Donc, ça veut dire qu'on a une personne dans le ménage qui répond pour l'ensemble du ménage, un ensemble de personnes qui vivent ensemble, un foyer, quoi. Donc, ces enquêtes-là, et là, c'est le cas de la France, c'est l'enquête patrimoine de l'INSEE, une enquête déclarative. Donc, on demande, il y a une personne dans le ménage qui va dire, bon, bah, le patrimoine de mon ménage, c'est... Alors, on demande de détailler les différents comptes en banque, les actions, les obligations, les assurances-vie. Si le ménage est propriétaire de son logement, on va lui demander la valeur indicative de son logement. Est-ce qu'il y a des résidences secondaires? Est-ce qu'il y a des entreprises? Voilà. Et on fait ça à l'échelle du ménage. Faire ça à l'échelle du ménage, ça a en fait des incidences très très fortes. Et la principale incidence, c'est que ça empêche de regarder l'inégalité entre les hommes et les femmes, puisqu'il y a un certain nombre d'hommes et de femmes qui vivent ensemble à l'intérieur du même ménage. Donc en fait, pour nous, et c'est un travail qu'on est en train de mener nous en France, que mènent des Allemandes en Allemagne, et que mènent en fait, c'est un effort de recherche international là qu'on a à mener. C'est d'arriver à obtenir des données sur les patrimoines à une échelle individuelle, c'est-à-dire de savoir qui possède quoi dans les familles, qui possède quoi dans les ménages, et de recueillir des données statistiques à l'échelle individuelle. En France, on arrive à le faire un petit peu, mais au prix de reconstruction, donc on a les données à l'échelle des ménages et on va regarder, parce qu'il y a des questions dans le questionnaire qui nous permettent d'aller dire, bon, ben, tel compte en banque, il appartient à un tel, tel compte en banque, il appartient à une telle, le logement, il a été, c'est un bien propre acquis avant le mariage, donc il est à monsieur ou à madame, donc on arrive à reconstituer les patrimoines. Mais enfin, ça serait plus clair si on avait des enquêtes patrimoine à l'échelle individuelle. Et même si on avait une enquête patrimoine à l'échelle individuelle, si on prend les données des enquêtes patrimoine, et ce n'est pas spécifique à la France, c'est partout dans le monde, on se rend compte que les patrimoines déclarés dans ces enquêtes sont sous-évalués de 40% par rapport aux données de la comptabilité nationale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une sous-évaluation énorme. Quand on demande aux gens « qu'est-ce que vous possédez ?», il y a une sous-évaluation de l'ordre de 40%. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Donc, du coup, il faut se poser des questions. Ça enclenche une série de questions sur, bah, par exemple, est-ce que cette sous-déclaration, elle est uniforme? Ou bien, ce qu'on pense, nous, avec Sybille, que plus vous êtes riche, plus vous sous-déclarez, en fait. On peut d'ailleurs le prouver, ça. Ce qu'on ne peut pas prouver, c'est exactement de combien plus vous sous-déclarez quand vous êtes plus riche. Donc, tout ça pour vous dire, pour revenir à votre question, c'est que les données statistiques, elles doivent être interrogées. C'est toujours une construction de la réalité. Ça nous permet de voir des choses et ça en obstrue d'autres. Dans l'état actuel des choses, les données des enquêtes patrimoine, c'est la seule chose qu'on a pour décrire les inégalités patrimoniales. Mais c'est pas une description. Enfin, c'est une description qui comporte un certain nombre de limites. Et les enquêtes de terrain, qui peuvent vous apparaître en apparence comme plus subjectives, etc. Ben, elles permettent de comprendre un certain nombre de choses. Par exemple, sur les processus de sous-déclaration, qui varient selon les positions sociales. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je me suis un peu écartée, mais c'est un énorme truc, en fait, ce que vous venez de dire là. En L3, je passe la moitié d'un cours d'un semestre pour arriver à répondre pleinement à votre question, en fait.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Moi, j'ai encore une autre question. Combien de temps prend une telle enquête?
Eh bien, donc, beaucoup de temps. Énormément de temps. Dans le livre, là, il y a vraiment des résultats d'enquête qu'on a menés avec Sybille Golag depuis 20 ans. Alors après, ça ne veut pas dire que pendant 20 ans, on a fait que ça. Il y a eu plein d'étapes intermédiaires. Mais oui, c'est énormément, énormément de travail. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de ce livre, c'est d'avoir mis ensemble dans un même livre des enquêtes réalisées auprès des familles, donc par monographie de famille, une réflexion sur les données statistiques, sur les enquêtes patrimoine, ce que je viens de vous raconter, et puis tout un volet d'enquête sur les professionnels du droit, les institutions du droit de la famille, donc les tribunaux, comment travaillent les notaires, comment travaillent les avocats. Donc c'est beaucoup de travaux en fait, c'est beaucoup d'enquêtes. Alors après, avant d'écrire ce livre, on a écrit d'autres livres et on a écrit d'autres articles. Donc, et encore une fois, il y a 20 ans, on n'était pas en train d'écrire ce livre, on passait par tout un tas d'étapes intermédiaires. Mais ce livre, ça ramasse beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enquêtes réalisées sur beaucoup de temps. Et il fallait ce temps. Aujourd'hui, bon, il y a vraiment un mouvement dans la science, enfin dans la société en général, mais dans la science en particulier, où il faut aller très vite, où il faut publier très vite, où on demande quasiment d'avoir les résultats avant d'avoir fait les enquêtes. Ben là, c'est vraiment l'inverse, en fait. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, je ne vous parle même pas du travail d'écriture du livre. Donc ça, c'est peut-être aussi ça qui vous intéresse. Mais disons que sur le fond, on avait toutes les pièces de notre puzzle et on a encore eu un an et demi rien que consacré à l'écriture elle-même du livre. Voilà.
Merci.
La prochaine question, c'est comment fait-on pour écrire à plusieurs, avoir des choses que vous aimeriez faire que vous ne pouvez pas faire en écrivant seul? Enfin, quelles en sont les contraintes?
Alors, avant ce livre-là, on a participé, Sybille et moi, à un autre livre qu'on a signé avec le collectif 11. Ça s'appelait Au tribunal des couples. On était 11 auteurs. Donc, d'une certaine façon, 2, c'est facile par rapport à 11. En fait, la recherche en sciences sociales, elle peut rarement se faire seule. Et j'ai l'impression que là, dans notre génération, on donne plus à voir les collectifs. Par exemple, si vous pensez au grand nom de la sociologie, vous pensez à Pierre Bourdieu. Bah, Pierre Bourdieu, en réalité, il a fait un certain nombre de choses seul, mais il a fait en réalité énormément de choses avec tout un tas d'autres sociologues. Mais à la fin, c'était signé Pierre Bourdieu. Là, notre génération, je pense qu'on a à cœur à davantage. C'est aussi une critique de genre, hein, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient pour Pierre Bourdieu sans jamais avoir leur nom sur la couverture. Des hommes aussi, d'ailleurs. En fait, les enquêtes, surtout les enquêtes un peu vastes, un peu importantes, on ne peut pas les mener tout seul. On est obligé d'être plusieurs pour rassembler ne serait-ce que les matériaux. Et écrire un livre à plusieurs, en fait, c'est à toutes les étapes du coup qu'on est plusieurs. On est plusieurs pour penser les enquêtes, pour réaliser les enquêtes, et puis pour les écrire et les valoriser aussi. Et écrire à plusieurs, pour moi, c'est très important parce que ça permet de... On a besoin d'être toujours réflexif, en fait. Et c'est très important, en fait, de ne pas projeter, je ne sais pas, ses névroses personnelles, mais aussi plus simplement son histoire sociale personnelle sur les travaux qu'on est en train de mener. Et être à plusieurs, bah, ça permet d'échanger, de discuter, de voir ce qui est solide, ce qui n'est pas solide. Voilà. Et donc là, concrètement, avec Sibylle, ça fait en réalité 15 ans qu'on travaille ensemble. On avait déjà écrit plusieurs textes ensemble. Il y a des idées dont je sais qu'elles viennent un peu d'elle et d'autres dont je sais qu'elles viennent de moi, mais sur tellement d'années et tellement... Enfin, c'est presque indécidable, en fait. C'est comme une conversation qu'on a toutes les deux depuis si longtemps que c'est presque indécidable de quelle idée vient de qui. Et concrètement, sur l'écriture d'un livre, ce qui est très difficile, c'est que donc moi, vous avez entendu, je suis professeure à Dauphine. Et Sibylle, elle est chercheuse au CNRS. Et en fait, on a des emplois du temps où on a beaucoup d'autres choses à faire que d'écrire des livres. Notamment, moi, par exemple, je dois donner des cours. Mais pas seulement donner des cours, il y a aussi je dois recruter des étudiants de master, par exemple. Bon, ça prend du temps. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Et donc, ce qui est difficile, c'est d'arriver de trouver le bon calendrier pour se dire, bon, bah voilà, maintenant, on se met à écrire ce livre. Ça passe au-dessus de notre pile à toutes les deux comme... la chose numéro un qu'on doit faire, et il faut qu'on arrive à l'écrire. Et concrètement, on a réfléchi au plan ensemble, on a démarré des chapitres l'une et l'autre séparément, et puis quand le chapitre était suffisamment avancé, on l'envoyait à l'autre, qui reprenait le chapitre, qui écrivait à partir de ce qu'avait écrit l'autre, mais pas en mode correction, très concrètement. Ça veut dire qu'on ne corrige pas le chapitre de l'autre. Par exemple, c'est impossible de dire chapitre 1, c'est une qui l'a écrit, chapitre 2, c'est l'autre qui l'a écrit. C'est plutôt, il y en a une qui a commencé, l'autre qui a repris le chapitre, qui se l'est approprié, qui a changé des choses, puis on repasse comme ça. Puis il y a des chapitres qui ont fusionné, il y a des chapitres qui se sont séparés. C'est tout ça l'écriture d'un livre. Voilà, donc je pense qu'au final, on ne peut pas savoir qui a écrit telle phrase et qui a écrit telle phrase. C'est vraiment un système de se passer à chaque fois les documents et de se les réapproprier entièrement. Mais c'est très riche. Mais en réalité, on a pu faire ça sans beaucoup être au même endroit au même moment, à part pour le plan du livre. Et peut-être dans l'année et demie où on a écrit, on a dû être peut-être 3 semaines ensemble, physiquement au même endroit. Les autres moments, on se passait les documents, mais c'est aussi beaucoup de discussions au téléphone, et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail antérieur ensemble.
C'est quoi les avantages et les désavantages de votre métier, et pourquoi vous avez choisi ce parcours, en fait ?
C'est pas comme si on choisissait un jour de... C'est toute une série de petits choix successifs qui fait qu'on en arrive où on en est. Alors, moi, j'aime beaucoup mon métier. Ce que j'ai d'abord adoré en sciences sociales, c'est de faire des enquêtes. Je trouve que faire des enquêtes, ça permet d'aller à des endroits où on ne serait pas allé dans sa vie ordinaire, rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés, parler avec eux. Donc ça, d'abord, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Après, dans la vie de chercheuse en sociologie, il y a des moments où on fait plus ce qu'on appelle du terrain. Donc, il y a une période, par exemple, où je passais mon temps dans les tribunaux à aller assister à des audiences de divorce ou à consulter des dossiers de divorce. C'était ça, l'essentiel de mon activité de recherche. Et puis, il y a des périodes qui sont des périodes longues où on est devant son ordinateur à écrire, à essayer de mettre du sens dans ce qu'on est en train de faire. C'est parfois douloureux. Mais c'est aussi assez passionnant, en fait. Et moi, j'aime beaucoup aussi faire ce que je suis en train de faire là avec vous aujourd'hui. J'aime beaucoup aussi rendre compte de mon travail en dehors des cercles universitaires. Je trouve que c'est très important. Donc voilà, donc ça fait quand même pas mal d'aspects de mon travail que j'aime bien. Donc j'aime bien ce travail de recherche. Après, il y a plein de moments où je suis débordée, où j'ai trop de travail. Les inconvénients, c'est aussi qu'on y pense tout le temps. C'est pas le genre de métier où le soir, on peut éteindre son ordinateur et ne plus y penser. En fait, c'est passionnant. Donc c'est aussi très prenant et ça prend la tête, comme on dit. Donc voilà, ça parfois ça peut être c'est à la fois ce qui fait que c'est intéressant, mais ça peut être aussi une difficulté quand c'est sur plusieurs années consécutives. Et puis bon, par ailleurs, on a quand même un milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche en France qui va pas très bien. Et ça, c'est difficile aussi. Là, maintenant, je suis directrice de thèse. Je suis aussi un peu inquiète pour les doctorantes et les doctorants qui travaillent avec moi parce que c'est difficile de trouver des postes. C'est un milieu très concurrentiel à plein d'étapes différentes. Donc moi, ces étapes, maintenant, je les ai franchies, ce qui me donne aussi une très grande liberté. Mais ça, c'est difficile parce que dans mon quotidien professionnel, je travaille avec des gens qui n'ont pas franchi ces étapes et pour qui c'est plus compliqué, y compris matériellement, par exemple. Donc voilà, ça aussi, c'est un aspect plus négatif de ce métier. J'aime bien faire cours aussi, je suis prof aussi. Et ça fait partie des choses que j'aime bien.
Merci beaucoup.
Moi, j'ai une dernière question. Quelle relation avec l'éditeur ?
Alors, la couverture, c'est l'éditeur qui l'a trouvée. Et c'était pas si facile à illustrer, le genre du Capital. Et on n'avait pas de meilleure idée que ça. Et en fait, on l'a bien aimée, cette couverture. On trouve qu'elle est... Elle a ce petit côté vintage. Et elle dit aussi... on l'a bien aimé cette couverture parce que justement ça a l'air d'être une espèce de famille un peu mythique qui n'existe pas, américaine d'ailleurs, puisque c'est une photo qui vient des États-Unis avec le père, la mère, le fils et la fille devant leur maison. Et ce côté un peu presque pas concret, mythique, on trouvait que c'était pas mal parce que c'est bien de ça dont on parle dans le livre aussi, c'est de ce modèle de la famille hétéronormée. Et puis, honnêtement, on n'avait pas de meilleure proposition à faire. Après, l'éditeur, donc La Découverte, c'est un éditeur qu'on... Bon, pour le dire vite, quand on veut faire un livre en sciences sociales qui dépasse les cercles universitaires, il y a deux grands éditeurs, c'est Le Seuil et La Découverte. Donc, on était très heureuse que La Découverte accepte notre livre. Édité dans un éditeur un peu généraliste, ça a aussi des effets. C'est-à-dire que, concrètement, on a fait vraiment un travail d'écriture très important pour que notre livre soit accessible. Parce qu'il y a à la fois la technicité de nos enquêtes, par exemple de nos données statistiques. Il n'y a pas un seul tableau dans le livre, on a mis les tableaux sur un site. Et ça, c'était l'éditeur, hein, il ne voulait pas qu'il y ait des tableaux dans tous les sens dans le bouquin. Et on a l'autre difficulté qu'on avait, c'est qu'il y a du droit de la famille, du droit notarial dans le livre, et que ça aussi, c'est un peu rebutant et ça peut devenir assez vite compliqué. Si je vous parle de cantonnement des libéralités ou de communauté de biens réduite aux acquis, tout de suite, vous n'avez pas envie de lire le livre, en fait. Donc ça, c'était une des choses qu'on voulait faire, et on était d'accord avec l'éditeur là-dessus. On voulait absolument que le livre soit accessible, pas jargonnant, pour montrer qu'il y avait des enjeux sociaux très importants, des enjeux même politiques, des enjeux féministes dans ces questions patrimoniales. Donc là-dessus, on était raccord avec l'éditeur. On a eu des difficultés avec l'éditeur qu'on n'avait pas anticipées sur la question de l'écriture inclusive. Je sais, pour celles et ceux qui ont lu le livre, il y a un travail en fait sur l'écriture dans le livre pour que quand il y a un pluriel, on sache si c'est un pluriel masculin, un pluriel féminin ou un pluriel mixte, masculin et féminin. Et du coup, il y a plusieurs techniques pour faire ça. Donc, il y a ce que je fais à l'oral, là, celles et ceux, par exemple. Et puis, il y a la question il y a le point médian qui peut permettre parfois d'alléger un petit peu les formulations quand ça devient trop lourd. Et on a eu tout un débat très tardivement avec l'éditeur sur cette question du point médian. Il y en a quelques-uns dans le livre. Plus personne ne nous en parle, en fait, depuis que le livre est paru. Personne ne nous a dit que ça gênait la lecture. Mais on a eu des discussions très, très difficiles avec l'éditeur qui était très réticent à ce qu'on utilise des points médians. Mais nous, on y tenait absolument.
Merci beaucoup. Donc, voici Pauline qui va prendre la suite de l'entretien.
Bonjour. Je vais vous parler de la question du genre. Ma première question, c'est à qui ce livre s'adresse-t-il en priorité, plutôt aux décideurs, à la communauté scientifique, les femmes et les hommes, ou encore les écoles?
C'est marrant parce qu'on m'a posé la même question hier soir et c'était la première fois. Donc là, en fait, ce qui est drôle, c'est que quand on écrit un livre, on ne sait pas ce qui va advenir de ce livre exactement. On a des espoirs pour ce livre, donc qui sont liés justement à l'éditeur. On se dit, voilà, je publie à La Découverte, j'espère que ce livre va être lu. Donc déjà, on est des scientifiques. Donc, ce qu'il fallait absolument, c'est que notre livre il soit sérieux scientifiquement, qu'il réponde aux canons de l'enquête en sciences sociales et qu'il soit inattaquable sociologiquement. Ou, enfin, en tout cas, qu'il réponde aux critères scientifiques de ce que c'est qu'un livre de sciences sociales. Donc ça désigne un premier public qui est le public classique pour nous qui sommes universitaires, c'est-à-dire nos collègues. Et ça marche puisque notre livre, il a tout de suite été mis à des programmes dans tout un tas de filières de sciences sociales, en sociologie, en économie, en philosophie, à l'université. Par exemple, pour rentrer à Sciences Po Lyon cette année, en quatrième année, il faut lire, étudier notre livre. Donc ça, c'est... Et puis voilà, les profs de SES aussi ont lu le livre, l'ont apprécié, l'utilisent pour faire des cours. Voilà, donc ça, c'était un peu la base, si je puis me permettre, pour nous. Mais ensuite, bien sûr, on espérait que ce livre, et c'est un peu dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on espérait aussi, c'était que le livre allait... avoir un plus large public que ça, et ça va dans le sens de aussi ce que souhaitait l'éditeur, hein, la découverte, et on avait travaillé en ce sens-là, c'est-à-dire de faire un livre avec qui soit lisible, qui soit accessible et même politique. C'est la première fois en fait qu'on écrivait un livre en disant on est sociologue et on est aussi féministe. Cette question de l'inégalité patrimoniale, c'est un sujet dont devrait s'emparer les femmes et le mouvement féministe. Voilà. Et ça, bien sûr, on pouvait l'espérer, mais on n'était pas sûr que ça allait marcher. Surtout que quand le livre est sorti, deux semaines après, les librairies ont fermé en France. C'était le Covid. Donc, on a eu vraiment très peur que, en fait, notre livre, il ne se passe rien. Les podcasts qu'on a faits, notamment le podcast « Les couilles sur la table », ça a vraiment lancé le livre. Voilà, il y a eu le livre a dépassé les cercles académiques, a été lu plus largement, et il a été lu jusqu'à pas mal de partis politiques en fait, plutôt de gauche, qui vont de la France insoumise au Parti socialiste, en passant par les Verts, qui ont tous des espèces de commissions égalité hommes-femmes. On a réussi à rendre visible cette inégalité patrimoniale entre les hommes et les femmes qui se jouent dans les familles, quelque chose qui n'avait pas été du tout mis sur le tapis du débat public jusqu'à présent. Et là, ça l'est, et on en est très heureuse. Mais on n'avait pas écrit les livres pour les décideurs politiques ou ni même pour les féministes. En fait, avant tout, on avait écrit un livre de sociologie. Mais on est très heureuse de l'usage qui en est fait plus largement.
Merci. Je vous présente Nicolas, qui va vous poser une question.
Bonjour madame, je m'appelle Nicolas.
Bonjour.
La sociologie, avant tout descriptive, libératrice ou libératrice car descriptive, de quoi pourrait avoir l'air une sociologie appliquée ?
Alors, c'est Durkheim hein, qui disait que la sociologie ne vaudrait pas une heure de peine si elle ne servait pas à quelque chose dans nos vies et dans le débat public. Et d'ailleurs, les grands sociologues, hein, tous que vous connaissez, Durkheim, Max Weber, ils étaient engagés aussi politiquement, notamment Durkheim dans le mouvement socialiste. Donc du coup, moi je ne connais pas par exemple une seule personne qui travaille sur les inégalités. Prenez Thomas Piketty, c'est le plus connu, mais enfin tous les autres. Il n'y a pas une seule personne qui travaille sur les inégalités qui n'a pas une volonté de réduire les inégalités. Enfin, on ne travaille pas sur les inégalités si on trouve que les inégalités, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. Donc, du coup, la sociologie, c'est offrir une, comme vous dites, une description de la réalité. Nous, là, ce qui nous touche vraiment beaucoup avec ce livre, c'est qu'on a vraiment plein d'hommes et de femmes qui nous disent « Ah là là, mais en fait, ce que vous décrivez dans votre livre, c'est l'histoire de ma mère ou bien c'est mon histoire. » Et en fait, toutes ces personnes, elles avaient l'impression que leurs histoires familiales, de successions qui ne se passent pas bien, de conflits, de sentiments de s'être fait avoir, elles avaient l'impression que c'était tout le temps particulier, des situations particulières liées aux spécificités de leur famille. Et en fait, notre livre, ça permet de prendre conscience que non, il y a d'abord, c'est des réalités partagées, mais que parce que c'est dans la famille, ben, on n'en parle pas nécessairement, et qu'il y a des processus sociaux collectifs en fait très forts à travers ces situations qui paraissent individuelles. Et donc, c'est une sorte de description de la réalité. Et il y a plein de gens qui disent, enfin moi j'ai l'impression que là avec ce livre, ce qui se passe, c'est que des gens se rendent compte qu'il y a un gisement d'inégalité qui était juste là sous leur nez dans les relations avec leurs frères et sœurs ou leurs parents ou leurs conjoints. Et nous, en fait, on offre une certaine description de la réalité qui permet de se rendre compte de ça. Et j'espère en effet que c'est libérateur. J'espère en effet que ça peut faire bouger des lignes en tout cas.
Merci beaucoup. Je laisse la place à Silvia.
Bonjour.
Bonjour.
Si vous étiez présidente pour un an, quelles mesures mettre en place en priorité pour que les différences éventuelles entre les genres donnent moins lieu à des inégalités ?
Ah oui, bon, alors c'est pas mon intention hein, de me lancer dans une carrière comme ça. Bon, ce qu'on dit dans le livre, c'est que ce qui est paradoxal, c'est que le droit de la famille et de la propriété, dans ses grandes lignes aujourd'hui, il est égalitaire. Notamment depuis cette... et c'est assez récent. Hein. 1965, c'est le moment où les femmes mariées ont l'autorisation d'avoir un compte en banque à leur nom, de signer un contrat de travail sans demander l'autorisation de leur mari et de gérer leurs biens. Parce qu'avant, en fait, c'était leur mari qui gérait, y compris leurs biens propres hérités de leurs parents. Donc, on revient de loin quand même, hein, nous les femmes. 1965. Donc en fait, le droit, c'est pas la bataille en France, elle n'est pas complètement là-dessus. Elle n'est pas sur le code civil, elle n'est pas sur le droit de la famille et de la propriété. Elle est déjà davantage sur la pratique du droit de la famille. Donc je pense que des choses à faire, et pour ça, il n'y aurait pas besoin d'être présidente d'ailleurs, ça serait de former davantage les professionnels du droit. Les notaires, les avocates, les juristes, les juges, les juristes de façon générale, à ces enjeux d'inégalité économique dans le droit de la famille. Donc ça passe davantage, ça passe déjà par des formations. Une question qu'on nous pose très très souvent, c'est est-ce qu'il y a des listes de professionnels du droit qui ont des bonnes pratiques en la matière ? Ça n'existe pas. Donc ça serait des choses qu'on pourrait faire. Après, au niveau de l'exécutif, il y a quand même des choses à faire, mais plutôt, je pense, sur le système, ce qu'on appelle le système socio-fiscal, donc sur les impôts. Si on taxait davantage les héritages, les successions, ce sont des mesures très impopulaires. Personne ne veut se lancer là-dedans. Parce que les gens ne comprennent pas que en fait, ça favorise à ce point les gens les plus riches. Mais taxer le patrimoine et taxer surtout les héritages, ça permettrait quand même à la fois de faire de l'inégalité entre les classes sociales et aussi de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et il y a aussi autre chose à faire sur l'impôt, c'est que le système fiscal actuel, il est complètement familialisé. C'est-à-dire qu'en fait, vous payez des impôts, là encore, par foyer fiscal. Et vous payez des impôts selon ce que... Donc, par exemple, on va prendre un couple avec des enfants. Dans les couples de sexes différents, l'écart de revenus entre les hommes et les femmes, il est de 42%. Aujourd'hui, en France, c'est énorme. Et le taux d'imposition est calculé sur l'ensemble des revenus des deux conjoints. Et en plus, aujourd'hui, l'imposition est à la source. Donc, en fait, il y a un taux d'imposition qui dépend du revenu de monsieur et du revenu de madame et qui est directement prélevé à la source sur les revenus, sur les salaires. Et en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que vu qu'il y a cet écart moyen de 42%, ça fait baisser les taux d'imposition des hommes, mais ça fait aussi considérablement augmenter les taux d'imposition des femmes en couple. Donc là, il y aurait quelque chose à faire de très simple. Ça prendrait une minute comme réforme, le taux du foyer fiscal. Mais il y a la possibilité, si on se rend sur le site des impôts, de demander un taux individualisé qui dépendrait du revenu individuel de chacun dans le couple. Si on renversait les choses, c'est-à-dire que ça devenait ça, la procédure par défaut, eh bien d'un seul coup, les femmes, elles auraient des feuilles de paye qui remonteraient et les hommes, des feuilles de paye qui diminueraient. Extrêmement simple à faire. Et ça pourrait changer un petit peu, à la marge, mais un petit peu, ce que les hommes et les femmes peuvent épargner, par exemple, quand ils sont en couple. Puis, il y aurait plein, plein d'autres choses à faire sur les pensions alimentaires, sur le prélèvement à la source des pensions alimentaires. Faire en sorte que ça ne soit pas aux femmes sans cesse de demander quelque chose au père parce qu'elles ont la garde des enfants. Bon, bref, il y aurait tout un tas de choses à faire sur le système socio-fiscal. Une autre mesure, pour, pour les couples séparés, parce que le moment crucial, c'est les séparations. Parce que le moment des séparations, c'est le moment où les femmes s'appauvrissent et où ça se voit. Il y a beaucoup de femmes qui touchent en France l'allocation de soutien familial. Donc, c'est des femmes qui ont la garde de leurs enfants et qui touchent cette allocation de la caisse d'allocation familiale quand leur conjoint, enfin le père de leurs enfants, soit ne peut pas, soit n'a pas les moyens de payer une pension alimentaire, soit ne paye pas la pension alimentaire. C'est à peu près 110 euros par enfant et par mois. Pour des familles populaires, de classe populaire, c'est en fait une part, ça peut être une part conséquente de leur budget. Bon, et ben il y a en ce moment, si une femme qui touche l'allocation de soutien familial se remet en couple, elle perd son allocation de soutien familial. Bon, voilà, ça c'est une mesure aussi, très simple à prendre, parce que c'est pas normal. Ça signifie en fait que celui qui doit se substituer au père, c'est le nouveau conjoint de la mère, actuellement. Ce qui est quand même un drôle de truc, qui crée en plus plein d'histoires. C'est-à-dire que les femmes vont pas redéclarer qu'elles se remettent en couple. Du coup, la CAF va les traquer, dire qu'elles sont des tricheuses, qu'elles vivent en couple alors qu'elles touchent encore l'allocation de soutien familial, etc. Mais dans le fond, ça veut dire qu'on considère que c'est au nouveau conjoint de payer pour les enfants du premier couple, quand le père est impécunieux ou ne paye pas la pension alimentaire. Donc voilà le genre de réforme que je ferais si j'avais un an de pouvoir.
Merci.
Une dernière question sur la thématique du genre. La famille contribue fortement aux inégalités entre femmes et hommes. Pensez-vous que c'est un environnement qui ne sera jamais compatible avec la libération de la femme ? Et la famille est-elle l'ennemi de la femme ?
Je pense que la famille, c'est vraiment le lieu du meilleur comme du pire. Et je ne sais pas si vous avez suivi tout le débat qu'il y a eu, enfin tout, le débat public qu'il y a eu en France depuis le mois de janvier là sur le MeToo inceste. Voilà, la famille c'est aussi ça. La famille c'est vraiment le meilleur. Les relations amoureuses, les relations affectives parmi les plus fortes, et c'est aussi les aspects les plus terribles. Des violences épouvantables, des violences sexuelles, des violences familiales, des violences conjugales. Voilà, donc la famille, c'est un peu le meilleur et le pire. Je crois que c'est pour ça que moi, ça m'intéresse de travailler sur la famille, hein, en fait, depuis le début. C'est que je trouve qu'on n'échappe pas à sa famille. On est pris là-dedans, en fait. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le mouvement féministe, alors même que dans les années 70, il y a eu beaucoup de travaux sur les relations familiales, sur une critique notamment du mariage. Bon, et heureusement, enfin, je vous rappelle, hein, 1965 quand même, pour que les femmes mariées puissent gérer leurs biens. Dans les années 70, c'est aussi il y a eu un moment très important autour du travail domestique. Dans plein de pays dans le monde, il y a eu des mouvements féministes qui ont mis au cœur la question du travail domestique, d'appeler déjà ça du travail. Ce qui se passait dans la famille et pas des actifs, pas le ménage ou s'occuper des enfants, de qualifier ça de travail. Ça a été un moment très très important. Mais après ce moment-là des années 70, les féministes, elles se sont détournées de la famille pour aller regarder plutôt du côté du travail professionnel, en disant il y avait vraiment cette idée dans les années 80 et 90 que l'émancipation des femmes, elle passerait par le travail. Elle passerait par le fait d'avoir des salaires aussi élevés que ceux des hommes. Elle passerait par l'école aussi. Et aujourd'hui, d'un point de vue scolaire, on a gagné. C'est-à-dire que les femmes font plus d'études, réussissent mieux leurs études, font plus d'études. Alors, elles ne sont pas exactement dans les mêmes filières, etc. Mais enfin, elles sont plus diplômées que les hommes. Et dans les couples, les femmes sont aujourd'hui plus diplômées que leurs conjoints. Et c'est quelque chose de récent. Donc, il y a eu des batailles sur l'école, il y a eu des batailles sur le travail professionnel, sur les salaires, qui ne sont pas des batailles terminées, hein, parce que malgré toutes les lois qu'il y a, il y a encore des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Mais le mouvement féministe s'est un peu détourné de ce qui se passait dans la famille. Les mouvements féministes radicaux des années 2000 ont été aussi très imprégnés par les mouvements LGBTQI+, fournissent une sorte de critique radicale de la famille hétérosexuelle traditionnelle, qui paraît être un peu l'endroit où il n'y a rien à faire en fait pour le féminisme. Donc des espèces de critiques radicales de la famille. Bon, mais n'empêche que moi, ça m'a frappée aussi là depuis un an qu'on présente ce livre. C'est-à-dire que même quand vous allez dans des milieux queer, les plus radicaux qui soient, en fait, on n'échappe pas à la famille hétéronormée. C'est-à-dire que chacun a des frères, des sœurs, des parents, des oncles, des tantes, des pères, des mères. Enfin, voilà. Et même quand on a, même quand dans sa vie personnelle, on ne vit pas selon ce modèle-là, on est quand même pris dedans. Et aujourd'hui, les féministes se réintéressent à nouveau aux relations familiales pour aller décrire les aspects les plus sombres de la famille, donc les violences, violences conjugales, violences faites aux femmes, féminicides, parce que vous le savez, hein, les violences sexuelles, en fait, elles, c'est pas les viols, c'est très rarement un inconnu derrière un buisson. En fait, c'est toujours, presque toujours pris dans des rapports dans des rapports soit amicaux, soit familiaux, en tout cas de proches. Donc voilà, donc les féministes aujourd'hui sont en train de réinterroger ça et de se reposer des questions sur la famille à travers cette question des violences. Et il me semble que du coup, nous, ce qu'on fait là sur l'économie, ça participe à ça aussi, c'est-à-dire d'aller regarder ce qu'on a un peu toutes et tous sous notre nez et auquel on n'échappe pas si facilement, malgré tout, dans les relations, voilà, dans la famille hétéronormée. Ça répond à votre question ?
Oui, merci beaucoup. Je vais vous laisser avec Sana.
Bonjour. Vous avez dit que vous avez étudié aux États-Unis pendant un an. Pouvez-vous comparer la France à d'autres pays, par exemple les États-Unis ?
Alors, donc, moi, mon travail il porte essentiellement sur la France, mais c'est vrai que une partie de ce livre, d'ailleurs, a été écrite aux États-Unis. Donc, j'avais aussi en tête le modèle américain. Le droit est différent. Donc, il y a deux grandes traditions juridiques dans le monde. Il y a le droit en matière de droit de la famille et de droit de la propriété. Il y a la tradition de code civil comme en France, l'Espagne, enfin, tous les pays qui ont été conquis par Napoléon, donc toute l'Europe du Sud et toute l'Amérique du Sud ont des régimes, fonctionnent avec un droit légiféré qui ressemble beaucoup au droit français. Et puis, vous avez les pays de la common law, donc le Royaume-Uni et puis tous les pays du Commonwealth, donc Canada, États-Unis, Australie, etc., qui, là, ont un système juridique complètement différent, qui est moins codifié. Et en matière de droit de succession, c'est assez différent. Aux États-Unis et donc en Angleterre aussi, vous avez la liberté de tester, c'est-à-dire que vous donnez votre... Vous donnez votre patrimoine à qui vous voulez. Alors qu'en France, il y a des règles très précises. Vous n'avez pas le droit de déshériter vos enfants. Si vous avez suivi l'affaire Johnny Hallyday et sa succession, c'était ça, en fait, qui était en jeu. Et donc, du coup, on a des systèmes juridiques qui sont assez différents. Mais sur les inégalités de patrimoine selon le genre, ce qui est étonnant, c'est que ça aboutit pas à des choses très différentes. C'est-à-dire que malgré ce droit des successions très différent, il y a quelque chose de commun dans les deux systèmes, qui est que il y a une norme égalitaire qui est très forte. La norme égalité, il y a une norme en fait de pas en matière de succession qui consiste à ne pas déshériter ses enfants et à être égal entre ses fils et ses filles. La norme, elle est vraiment celle-là aux États-Unis aussi, au Royaume-Uni aussi. Et pourtant, en pratique, on peut voir qu'il y a des inégalités. Et en France, c'est la même chose. En plus, avec un système juridique plus rigide qui devrait normalement contenir ça. Voilà, ça c'est un point, c'est un élément de réponse.
Ok.
Dans quelle mesure les thèses issues des travaux de Thomas Piketty vous semblent-elles pertinentes et importantes ?
Alors, il se trouve que lundi, j'ai discuté le livre « Capital et idéologie » de Thomas Piketty en présence de l'auteur. Et j'ai dit à quel point je trouvais que son travail était très important. En deux mots, il est très important parce que, donc en fait, avant les travaux de Thomas Piketty, on travaillait à partir d'indicateurs synthétiques d'inégalité qui, honnêtement, sont pas très parlants, et notamment pas très parlants pour le grand public. Après Thomas Piketty, enfin, et Thomas Piketty, hein, c'est une entreprise en fait, hein, c'est plusieurs centaines de chercheurs dans le monde, hein, faut bien s'en rendre compte. Mais après, donc, l'entreprise Thomas Piketty, en fait, on s'est mis à travailler sur les inégalités complètement autrement à partir des distributions et notamment en allant regarder ce que possédaient les 0,1% les plus riches, les 1% les plus riches, les 10% les plus riches, etc. Et ça, en fait, bah, ça a eu des effets. Enfin, d'abord, ça a permis de montrer des choses incroyables sur sur le fait que la richesse était vraiment accaparée par un tout petit nombre d'individus. Et puis, c'est ce qu'il fait dans son dernier livre, Capital et idéologie. Ça permet des, c'est très puissant parce que ça permet des comparaisons à la fois dans le temps et dans l'espace. On peut ainsi regarder et se rendre compte que, par exemple, la France, sous l'Ancien Régime, est moins inégalitaire que la France au début du XXe siècle, ce qui est quand même ahurissant puisqu'il y a eu entre les deux la Révolution française. Donc c'est très très puissant en fait cette métrique des inégalités qu'il a proposée en travaillant sur les distributions. Concrètement, pour Sibyl et moi, ça a été très important le livre de Thomas Piketty parce que celui de 2013, Le Capital au XXIe siècle, ce livre-là en fait, il a mis vraiment en avant l'idée que il fallait aller regarder pas que les inégalités de revenus, mais aussi les inégalités de patrimoine, et qu'on était dans des sociétés où l'héritage allait être de plus en plus important dans la richesse nationale. La part de l'héritage allait être de plus en plus importante dans la richesse nationale. Et nous, avec Sibyl, on travaillait sur l'héritage depuis déjà longtemps, mais on nous renvoyait toujours à la tête l'idée que « Oh oui, mais vous travaillez sur des familles particulières, ça ne décrit rien de la société contemporaine où aujourd'hui, ce qui compte, c'est le capital culturel. » Et en fait, non. Après, à partir des travaux de Thomas Piketty, on se rend compte que le capital économique et l'héritage sont centraux dans les dynamiques inégalitaires des sociétés contemporaines. Donc, c'est très important. Après, nous, en tant que sociologues, on ne travaille pas sur les classes sociales de la même façon que Thomas Piketty. On ne travaille pas uniquement en termes de distribution, comme il le fait, même si je retire rien à ce que j'ai dit il y a un instant, c'est très important cette manière de travailler sur les distributions a d'un seul coup clarifié beaucoup de choses, mais une approche sociologique des classes sociales, je pense que ça doit être plus riche que ça. Ça doit aussi tenir compte des rapports de pouvoir, des rapports de domination, d'aller regarder en fait concrètement ce que ça veut dire d'être dans les 1% ou les 10% ou les 40% les plus riches. C'est pas seulement une histoire de détention de capital, c'est aussi des rapports de pouvoir sur d'autres gens. Par exemple, sur les histoires qu'on raconte dans notre livre, être riche, c'est aussi avoir des professionnels du droit et de la propriété qui travaillent pour soi, pour faire travailler son capital, avoir des notaires, des avocats fiscalistes, des experts comptables, enfin tout un tas de gens qui travaillent pour vous, pour faire en sorte que vous payiez le moins d'impôts possible et pour que votre capital se développe. Voilà, j'ai répondu vite, merci mais c'est beaucoup. Une question très importante.
Merci beaucoup. Une dernière question. Est-ce que vous avez déjà subi des inégalités dans votre travail ou dans votre famille?
Oui. Donc, moi, je suis une femme. Je pense que ma conscience féministe, elle vient de très loin. Et notamment, je vais le dire juste comme ça et sans rentrer dans le détail. Mais donc, moi, je suis une fille aînée et j'ai un frère qui est un peu plus jeune que moi. Et je pense que dans cette configuration, on se rend compte assez vite de ce que c'est que l'inégalité. Je pense que, par exemple, deux sœurs, c'est assez différent en réalité. Et puis après, j'ai rencontré aussi tout un tas discriminations sur le plan professionnel que je pourrais vous décrire. Mais enfin, voilà, sur la racine familiale de ma conscience féministe, elle vient de là.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Hold these truths to be self-evident that all